Vous écoutez, on lit pour vous.
Une personne en fauteuil roulant forcée de descendre 15 étages par les escaliers. Un texte de Jeanne Corriveau paru le 16 juin 2025 dans Le Devoir. Prisonnier au 15e étage de l'immeuble où il travaillait, au centre-ville de Montréal, à cause des ascenseurs non fonctionnels, un citoyen handicapé a dû se traîner jusqu'au bas de l'édifice par les escaliers parce que le service de sécurité incendie de Montréal, SIM, a refusé de se porter à son secours. Voilà l'un des dossiers ayant nécessité en 2024 l'intervention de l'Ombudsman de Montréal qui a déposé son rapport annuel au conseil municipal. L'homme qui se déplace en fauteuil roulant s'est retrouvé en fâcheuse position quand, après 18 heures, les ascenseurs de l'immeuble où il travaillait ont cessé de fonctionner pour une raison inconnue. Incapable de joindre le personnel de sécurité et le propriétaire de l'immeuble, il a alors communiqué avec le 911 et son appel a été transféré au SIM. Ce dernier refuse d'intervenir, arguant que les pompiers ne se déplacent que si une personne est coincée dans un ascenseur, relate l'ombudsman Nadine Mailloux dans son rapport. Le citoyen a finalement dû se résigner à descendre les escaliers laborieusement, ses collègues, également en situation de handicap, se chargeant de transporter son fauteuil roulant jusqu'au bas de l'immeuble. Cette situation comportait un très grand risque de chute ou de blessure pour les personnes impliquées, même si, heureusement, cela ne s'est pas produit, indique l'ombudsman. Après l'événement, le citoyen a dénoncé la situation auprès d'élus et du SIM, mais n'ayant pas été satisfait des réponses obtenues, il s'est adressé à l'ombudsman. C'est une situation rare et surtout, c'est une situation qui, pour une raison que j'ignore, n'était pas prévue par les protocoles d'incendie, souligne Nadine Mailloux en entrevue. Protocole revu. Après discussion, le SIM et le service de police de la ville de Montréal, qui est responsable du service d'urgence 911, ont convenu de modifier leurs protocoles respectifs pour qu'une telle situation ne se reproduise plus. Ce ne sont pas toutes les personnes à mobilité réduite qui sont en mesure de se traîner sur le derrière pour descendre 15 étages, signale Maître Mailloux. Joint par Le Devoir, le SIM rappelle que le propriétaire de l'immeuble est responsable du bon état de ses ascenseurs. Le transport ou le déplacement des personnes à mobilité réduite dans des situations où il n'y a aucun risque imminent pour l'intégrité physique n'est pas dans le mandat du SIM, indique le service dans un courriel. Le SIM reconnaît toutefois qu'il existait un vide dans ses protocoles sur la gestion de tels cas. Ces protocoles ont donc été modifiés. Le 911 dirigera dorénavant au SIM la demande d'aide qui évaluera chaque situation à la pièce, précise-t-on. Le propriétaire ou le SIM pourrait aussi demander à Urgence Santé d'intervenir avec une civière chaise. Dans les cas où Urgence Santé ne serait pas en mesure d'intervenir, le SIM priorisera et effectuera l'intervention en fonction de sa capacité et de la disponibilité de ses effectifs selon les autres appels en cours. Itinérance dans Milton Park. Au cours de la dernière année, le bureau de l'Ombudsman a traité 2164 dossiers, mais l'un d'eux est dans sa mire depuis des années, celui de la crise de l'itinérance autochtone dans le secteur de Milton Park. 3 ans après la publication de son rapport qui évoquait une crise humanitaire au cœur de la métropole, les progrès sont limités. Au cours de l'année 2024, l'Ombudsman a continué de recevoir des témoignages de résidents du secteur qui font état d'une détérioration de la situation. Les gens nous ont parlé, à l'été 2024, d'une augmentation de la malpropreté, d'une augmentation de comportements liés à la consommation de drogue au grand jour, explique Nadine Mailloux au Devoir. Avant, il y avait une consommation qui était davantage axée vers l'alcool. Mais là, on parle vraiment de consommation de crack, etc. La situation est complexe, reconnaît l'Ombudsman. Celle-ci croit toutefois que le programme d'accompagnement de Makivik, financé en partie par la Ville de Montréal, pourrait aider les personnes en situation d'itinérance et atténuer les problèmes de cohabitation dans ce secteur du plateau Mont-Royal. Ce programme, qui vise à faire de la prévention auprès des personnes de la communauté inuite, est en développement à l'aéroport Montréal-Trudeau et sera déployé à l'automne dans Milton Park. Je ne vous parle pas de régler les problèmes à 100%, mais on pense qu'à terme, ce projet va faire une différence qui va paraître pour les gens de Milton Park. L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est celui qui a été la cible du plus grand nombre de plaintes auprès de l'Ombudsman, avec 107 plaintes, mais celle-ci prend soin de signaler que cela ne témoigne pas nécessairement de problèmes de gestion. Le dossier de l'espacement de la collecte des ordures, qui alimente la polémique dans cet arrondissement, n'est pas évoqué dans le rapport annuel de l'Ombudsman. Nadine Mailloux indique toutefois que des plaintes à ce sujet ont été reçues, mais qu'elles ont été redirigées vers l'arrondissement. Donc, soit que les citoyens s'étaient déclarés satisfaits, soit qu'ils attendent encore avant de nous recontacter, dit-elle. Mais on n'a pas eu une déferlante par rapport à ça. Un arrondissement gourmand. Le plateau Mont-Royal arrive au deuxième rang, avec 84 plaintes. L'une d'elles concerne les frais exigés par l'arrondissement pour l'occupation temporaire de 4 places de stationnement dotées de parcomètres pendant les travaux de rénovation effectués dans une résidence. Les citoyens estimaient inéquitables les frais de 4 153 $ pour la perte de revenus liée au parcomètre, auxquels s'ajoutent des frais de base pour l'occupation du domaine public de 5 153 $, d'autant que ces places tarifées servent aussi aux résidents munis de vignettes. Or, a constaté l'Ombudsman, les 29 jours d'occupation représentent près de 25 fois la somme que rapportent habituellement ces 4 places de stationnement, un tarif jugé excessif. Les frais d'occupation du domaine public liés aux espaces de stationnement avec parcomètre permettent à l'arrondissement de générer des profits qu'il n'obtiendrait pas avec la seule utilisation des parcomètres, lit-on dans le rapport. L'arrondissement a refusé de verser un remboursement aux citoyens, mais s'est engagé à revoir sa politique de tarification. C'était une personne en fauteuil roulant forcée de descendre 15 étages par les escaliers, un texte de Jeanne Corriveau paru le 16 juin 2025 dans Le Devoir.
De la première à la 5000e greffe de cellules souches, un texte de Marie-Ève Cousineau paru le 30 juin 2025 dans La Presse. La vie, c'est un cadeau. Sonia Sasseville le sait plus que quiconque. À l'âge de 12 ans, elle frôle la mort. Atteinte d'une grave maladie du sein, elle doit subir dans l'urgence une greffe de moelle osseuse à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, HMR. Une première au Québec, à l'époque. C'était il y a 45 ans. Sonia Sasseville vit alors à Montréal-Nord avec ses parents et ses 3 sœurs. Elle se passionne pour la gymnastique artistique. « Je m'entraînais et j'étais vraiment faible », raconte la femme de 58 ans, assise dans la jolie cour arrière de sa maison à Saint-Hubert. Dès qu'elle se cogne à la poutre, elle développe des bosses ecchymoses. Son entraîneuse lui recommande de consulter un médecin. Après des prises de sang, la docteure Yvette Bonny, pédiatre et hématologue à HMR, l'hospitalise. Sa formule sanguine était tout à fait détruite, se rappelle la médecin retraitée. Il ne restait plus rien. Pas de globules rouges, pas de globules blancs, pas de plaquettes. L'adolescente est atteinte d'aplasie médullaire. Sa moelle osseuse ne fonctionne plus et il faut procéder à une greffe pour la sauver. Une de ses trois sœurs, âgée de 8 ans, est compatible. Elle lui fait don de cellules souches. Il me restait 2 semaines à vivre s'il ne me greffait pas, se souvient Sonia Sasseville. La docteure Bonnie et son collègue, le docteur Claude Perrault, s'activent. Leur équipe est théoriquement prête à réaliser une telle intervention, mais elle ne dispose pas d'un local réservé à ce type de greffe, ni d'un budget propre, indique la docteure Bonnie. Qu'importe, elle se lance. J'ai dit à Sonia, heureusement que ça a bien été, parce que c'est grâce à elle que le programme s'est développé, dit l'haïtienne d'origine, qui a reçu en juin le titre de commandeur de l'Ordre de Montréal. Des avancées nombreuses. HMR célèbre en juin sa 5000e greffe de cellules souches. On ne dit plus greffe de moelle osseuse, car les cellules souches sont maintenant prélevées dans le sang et plus rarement dans la moelle. En un demi-siècle, beaucoup d'avancées ont été réalisées, observe le docteur Imran Ahmad, directeur du programme de greffe de cellules souches hématopoïétiques et de thérapie cellulaire de HMR. Les premières greffes qui ont été faites, c'était dans la fratrie, explique-t-il. On testait la compatibilité des frères et sœurs, puis on greffait s'il y avait quelqu'un de compatible. Beaucoup de patients atteints de leucémie aiguë, par exemple, restaient en plan. Des registres de donneurs ont donc été créés, notamment chez Emma Québec. Puis, l'analyse de la compatibilité génétique du donneur et du receveur s'est raffinée, poursuit-il. Grâce à cela, ainsi qu'à des médicaments préventifs, la maladie du greffon contre l'hôte est devenue beaucoup moins fréquente, indique-t-il. Lorsque cette maladie survient, le nouveau système immunitaire transplanté s'attaque aux organes du patient, ce qui engendre une variété de symptômes légers à graves. C'est une forme de rejet à l'envers, illustre l'hématologue. C'est le greffon qui rejette le patient, et pas le patient qui rejette l'organe transplanté, par exemple un poumon. On a malheureusement encore des gens qui meurent de la maladie du greffon contre l'hôte, mais beaucoup moins qu'avant, se désole le docteur Imran Ahmad. Le cytomégalovirus, CMV, fait aussi moins de victimes parmi les patients greffés. Ce virus dort dans le corps et peut se réactiver lors du rétablissement. Des médicaments permettent désormais de prévenir et de traiter cette infection, comme d'autres d'origine virale et fongique, vers une thérapie cellulaire plus ciblée. La science continue de progresser. Pour certains lymphomes et leucémies aiguës réfractaires à la chimiothérapie, on commence à recourir à la thérapie cellulaire ciblée, explique-t-il. Plutôt que de changer tout le système immunitaire du patient, comme dans une greffe de cellules souches, on prélève chez le malade des globules blancs qu'on modifie génétiquement, qu'on multiplie et qu'on lui réinjecte. Ces cellules, les CAR-T, reconnaissent et tuent les cellules cancéreuses. HMR a été le premier centre canadien à offrir en 2019 ce traitement à des patients adultes au pays. L'avenir, selon le docteur Ahmad, c'est probablement de faire des cellules comme ça, modifiées génétiquement et ciblées, mais à partir de donneurs sains. Elles pourraient être disponibles dans des bibliothèques de cellules. Les patients n'auraient plus, comme à l'heure actuelle, à attendre plusieurs semaines avant que leurs globules blancs ne soient génétiquement modifiés et ne leur soient transmis. Le docteur Ahmad rappelle que le cancer peut progresser durant cette période. Infirmière à HMR. Sonia Sasseville, elle, est complètement guérie. J'ai recommencé la gym 6 mois après l'avoir arrêtée, dit cette adepte de la marche, qui fait encore la split à 58 ans. N'empêche, cette greffe a transformé sa vie. Elle est devenue infirmière à HMR. C'est ça qui m'a donné le goût d'une carrière dans le domaine de la santé, affirme-t-elle. Sonia Sasseville a rencontré son mari lors de ses études. Le couple d'infirmiers, maintenant retraités, a eu 2 filles. Sonia Sasseville voit la vie d'un autre œil depuis sa greffe. J'ai le bonheur facile. Je suis beaucoup axée sur le moment présent. J'apprécie les petites affaires de la vie. 57 066, c'est le nombre de donneurs de cellules souches adultes québécois, selon Emma Québec. Ils font partie des quelques 43 millions de donneurs du Registre international de la World Marrow Donor Association, auxquels les patients québécois ont accès. Plus simple pour les donneurs. Il existe désormais 2 façons de faire un don de cellules souches. Dans 9 cas sur 10, les cellules souches sont prélevées dans le sang du patient, indique le docteur Ahmad. Le donneur reçoit pendant plusieurs jours des injections sous-cutanées d'un médicament qui stimule la moelle osseuse afin que celle-ci relâche des cellules souches dans le sang. Autre méthode, le prélèvement de cellules souches dans la moelle osseuse lors d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale ou épidurale. Le donneur est couché sur le ventre. Le médecin insère une aiguille dans le bas du dos pour atteindre l'os du bassin qui renferme une grande quantité de moelle osseuse. Le docteur Ahmad assure que le don de cellules souches est très sécuritaire. Il y a des dizaines de milliers de donneurs qui ont été suivis pendant de nombreuses années dans des études de registre dans le monde. Ces dernières démontrent qu'il n'y a pas d'augmentation de maladies, y compris les cancers. Le donneur peut toutefois avoir des douleurs osseuses qui durent en général 4 à 5 jours. En général, c'est très tolérable, dit le docteur Ahmad. Ça passe avec un antidouleur léger. C'était, de la première à la 5 000e greffe de cellules souches, un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 30 juin 2025 dans la presse.
Regard de femme sur le CMA 2024, vers une Acadie alliant généalogie et inclusion. Une rubrique de Sandrine Mounier parue le 4 juillet 2025 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse. On veut que les jeunes soient fiers de leur identité, de leur histoire, de leurs ancêtres. Mais il faut aussi s'adapter aux valeurs d'inclusion d'aujourd'hui et comprendre que l'identité peut aller avec pour ne pas perdre l'envie de la transmettre, confie une jeune participante au Congrès mondial acadien 2024. Ces paroles résument un défi majeur en Acadie, conjuguer mémoire des origines et reconnaissance des parcours diversifiés. La vision dite généalogique de l'Acadie valorise la continuité des filiations, des noms de famille et parfois même de l'ADN comme marqueur d'appartenance. Depuis 30 ans, le Congrès mondial acadien, CMA, incarne cette représentation fondée sur les liens familiaux, notamment à travers les réunions de famille acadiennes. Or, cet héritage peut entrer en tension avec des trajectoires plus récentes ou recomposées, dans une Acadie de plus en plus plurielle. jeunes, femmes, personnes issues de l'immigration, des minorités de genre ou racisées, aspirent à une Acadie inclusive, représentative de leurs expériences et formes d'attachement variées. Cela soulève plusieurs questions. Les visions de l'Acadie généalogique et inclusive s'opposent-elles réellement? Comment ces tensions sont-elles vécues au CMA par les jeunes femmes d'origine acadienne et diversifiée? Est-il possible d'allier attachement aux origines et chemin pluriel? Ces interrogations ont guidé mon enquête menée à l'automne 2024 dans le cadre du projet « Vers l'Acadie de l'avenir, enjeux et espoirs autour du Congrès mondial acadien ». L'étude vise à recueillir les perceptions de femmes francophones ayant participé au CMA 2024 sur les représentations généalogiques et inclusives de l'Acadie. Quelques 24 femmes de 19 à 45 ans ont été rencontrées, 11 d'origine acadienne, 11 immigrantes, dont 8 issues des minorités visibles. Leurs trajectoires variées, du Canada au Moyen-Orient, en passant par les Amériques, l'Europe, l'Afrique et l'océan Indien, offrent des perspectives riches. Les premières réponses chiffrées révèlent une perception nuancée du CMA 2024. Globalement, les participantes estiment qu'ils représentaient moyennement la diversité et l'inclusion, 3 sur 5, et accordaient un peu plus de place à la généalogie, 3,5 sur 5. Ces moyennes masquent toutefois des écarts selon les parcours des répondantes. Celles d'origine acadienne perçoivent davantage de diversité, 4, que de généalogie, 3. Les immigrantes, l'inverse, respectivement 2,5 et 4. Et celles issues des minorités visibles sentent plutôt peu l'inclusion, 2,25. Les récits recueillis éclairent ces divergences. Les représentations de la généalogie et de l'inclusion varient selon les origines, influençant les expériences et les attentes à l'égard du CMA. Pour les participantes acadiennes, la généalogie renvoie à des pratiques concrètes de recherche d'ancêtres. L'une explique : on dirait que tant qu'il y a des réunions de famille, c'est perçu comme de la généalogie. Mais il n'y avait pas vraiment de documentation pour la découvrir au CMA 2024. Chez plusieurs immigrantes, la généalogie prend plutôt la forme d'une histoire collective transmise au CMA par les spectacles, conférences et rassemblements. L'aspect historique m'a vraiment interpellé. C'était extraordinaire de voir toutes ces familles rassemblées au tintamarre et dans les réunions de famille, pour célébrer leur identité et leur héritage, confie l'une d'elles. Quant aux représentations de l'inclusion, les répondantes acadiennes ont surtout souligné la présence de la diaspora, des personnes de SLGBTQIA+, et des communautés autochtones dans la programmation. L'une d'elles salue les touches spéciales que le Congrès a faites pour amplifier la diversité et l'inclusion. En revanche, plusieurs immigrantes issues des minorités visibles notent un manque de représentation des personnes plus récemment établies en Acadie. On a misé sur des têtes d'affiche. Je m'attendais à d'autres artistes émergents des communautés acadiennes de cœur. Une migrante interprovinciale canadienne-française résume un sentiment nuancé. Certaines activités étaient ouvertes sur la diversité, mais comme en parallèle. Les deux idées ne sont pas suffisamment intégrées l'une à l'autre. On en parle, mais comment ça vient ensemble? Au-delà des divergences, presque toutes les participantes reconnaissent qu'il reste des progrès à faire en matière d'inclusion au CMA. Et pour le quotidien, toutes expriment des aspirations communes pour une Acadie conjuguant mémoire des origines et reconnaissance des parcours diversifiés. Peu importe leur origine, elles accordent une grande importance à la fois à la connaissance de leurs racines généalogiques, 4 sur 5, et à la promotion de la diversité et de l'inclusion en Acadie, 5 sur 5. Ces perceptions équilibrées trouvent écho dans les récits recueillis. Une raison souvent évoquée pour souligner l'importance de connaître ses origines est de mieux se comprendre dans son environnement, local comme global. Ça aide à me centrer où je suis dans toutes les choses dans le monde, explique une participante issue de l'immigration. Pour une d'origine acadienne, c'est l'affaire de réaliser l'influence que ça a dans ma vie et la manière dont je réagis à certaines situations. Promouvoir la diversité et l'inclusion est vu comme tout aussi essentiel dans une Acadie en transformation. La communauté évolue, change. C'est une réalité. C'est important de respecter les traditions, mais aussi d'intégrer les nouveautés, affirme une immigrante. Selon une Acadienne, on est rassemblé par le fait d'être de l'Acadie. À quoi elle ressemblera dans le futur? C'est une réflexion importante à avoir. Par ailleurs, la mémoire des origines et la valorisation de la diversité ne sont pas perçues comme contradictoires, mais bien comme complémentaires. Comprendre quelles traditions je peux apporter à ma vie quotidienne pour honorer mes ancêtres, sans nuire au futur ni fermer des portes, c'est enrichir l'expérience de tout le monde, témoigne une Acadienne. Pour une répondante issue des minorités noires, se souvenir de son histoire familiale est une base pour s'allier avec d'autres communautés marginalisées et résilientes. Les personnes acadiennes et les personnes noires gagneraient à collaborer au lieu de se diviser. Reconnaître les traumatismes du passé, déportation, colonisation, pensionnat, devient alors un levier de solidarité et un socle pour bâtir une Acadie fondée sur une mémoire partagée et une justice sociale inclusive. En somme, les témoignages recueillis montrent que les visions d'une Acadie généalogique, ancrée dans la mémoire des origines ancestrales, et d'une Acadie inclusive, tournée vers la reconnaissance de la pluralité, s'opposent bien moins qu'elles ne se complètent. Les jeunes femmes d'origine acadienne et diversifiées rencontrées perçoivent dans le CMA un espace encore imparfait, mais porteur de possibilités à condition d'articuler plus clairement ces deux dimensions de l'Acadie. Au fond, leur voix ne réclame pas de tourner le dos à la mémoire, mais d'en élargir les contours pour conjuguer attachement aux origines diverses et construction de nouvelles formes d'appartenance hybrides. C'est à cette condition que l'Acadie pourra devenir véritablement inclusive sans renier ce qui l'a fondée. C'était « Regard de femme sur le CMA 2024, vers une Acadie alliant généalogie et inclusion », une rubrique de Sandrine Mounier parue le 4 juillet 2025 dans le courrier de la Nouvelle-Écosse.